Vous salue. Nous reprenons les délibérations de cette session qui a débuté il y a une semaine. Et pour aujourd'hui, se sont excusés messieurs Francis Huglet et Pierre Boyat. Nous en étions à la commission législative 3. Nous commençons par l'aménagement du territoire. Je donne la parole au rapporteur de la commission, monsieur Jean-Pierre Beret.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, avant de passer à l'examen des textes législatifs, je suis chargé de vous transmettre une brève déclaration de la Commission législative 3. Dès le début de ses travaux, la Commission législative 3 a enregistré plusieurs propositions émanant de divers milieux. Jusqu'à ce jour, elle a été sollicitée par la Fédération cantonale jurassienne des entrepreneurs, l'Association jurassienne des architectes, le groupement jurassien de l'Association suisse des droguistes, la Société des pharmaciens du Jura, la Société médicale du Jura Nord, l'Association jurassienne des chasseurs, la Commission de la Dige pour la sauvegarde du patrimoine, l'Association jurassienne d'animation culturelle et le Centre culturel jurassien, l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme, ainsi que la section jurassienne de l'Union professionnelle suisse de l'automobile. Si certains de ces groupes d'intérêt se sont bornés à nous soumettre quelques remarques au sujet de la législation les concernant, d'autres, par contre, nous ont remis des projets élaborés, appelant l'Assemblée constituante à modifier profondément quelques textes légaux. Dans les échanges écrits et verbaux qu'elle a entretenus avec ses associations, la Commission législative 3 a toujours affirmé sa volonté de ne pas entrer en matière dans des domaines touchant au fond de la législation qu'elle a pour mission d'adapter selon le mandat reçu au mois d'avril dernier. Cependant, devant l'insistance de certaines associations et ne se sentant pas habilité à donner une interprétation ultra-extensible à l'expression manifestement inopportun, notre commission a décidé de soumettre le problème à la conférence des présidents et de ne pas donner suite aux sollicitations extérieures sans ordre écrit de cette dernière. Nous avons souligné à cette occasion que le fait d'entrer en matière sur les revendications de certains groupes de pression obligerait implicitement l'Assemblée constituante à ouvrir une procédure générale de consultation sur le territoire du futur canton. Tout en reconnaissant le bien fondé de la plupart des requêtes soumises à notre commission, on ne saurait honnêtement admettre que certaines soient satisfaites pour la seule raison que leurs initiateurs ont osé tenter une démarche, alors que d'autres, conscients du travail de simple adaptation dont sont chargées les commissions législatives, attendent calmement la mise en place définitive de l'État pour formuler leurs revendications. De plus, nous avons estimé pour le moins téméraire d'apporter des modifications portant sur la réglementation de professions ou de groupes d'intérêt dans un acte législatif sur lequel les citoyennes et les citoyens du Jura se prononceront de manière globale. S'il est en effet logique que la législation héritée de Berne soit l'objet de réformes profondes lorsqu'elle touche l'ordre politique, administratif ou judiciaire de l'État du Jura, on ne saurait admettre qu'elle subisse des modifications en ce qui concerne la réglementation légale du secteur privé. Sur la base de ces considérations et consciente du délai très court imparti aux commissions, la conférence des présidents a décidé de ne pas entrer en matière sur les requêtes extérieures. Lors d'une de ses dernières séances, le bureau a publié une déclaration rappelant cette décision que la commission législative 3 est bien décidé à respecter. Au moment du passage de la matière législative contestée devant l'Assemblée plénière, les rapporteurs de la Commission mentionneront néanmoins, à titre informatif, les propositions soumises par les divers groupements que nous venons d'énumérer. Nous pouvons à présent passer à l'examen de la matière législative proposée par la Commission législative 3. 701-2, ordonnance d'exécution de l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire dans le canton du Jura du 24 mai 1972. Cette ordonnance vous est proposée sans modification matérielle.
Opposition acceptée.
706-11, décret concernant le financement de l'aménagement du 17 novembre 1970. Également accepté sans modification matérielle, seul reste en suspens la question du Bureau cantonal des statistiques, dont la mise sur pied appartient à la commission législative 1. Non, à la commission autorité administration 1, pardon.
Opposition acceptée. Nous passons maintenant au chapitre de l'expropriation. Monsieur Beuret.
711, loi sur l'expropriation du 3 octobre 1965. À l'article 10, nous avons simplement adapté la loi selon les termes de l'article 12, deuxième alinéa de la Constitution jurassienne. En ce qui concerne les articles 44 et suivants, la Commission vous propose de renvoyer pour examen à la Commission législative 1 les articles en question. Bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une commission de recours, à proprement parler, cette commission dite d'estimation assume actuellement la tâche de tribunal en matière d'expropriation.
Discussion acceptée.
711.1, ordonnance portant exécution de la loi du 3 octobre 1965 sur l'expropriation, ordonnance du 2 septembre 1966. Dans la législation bernoise, l'indemnisation des commissions est fondée sur des critères les plus divers. Aussi estimons-nous opportun que cette question soit réglée de manière uniforme dans le canton du Jura. Dans l'hypothèse du maintien de la commission d'estimation en matière d'expropriation, nous vous proposons d'adopter à l'article 6 une formule claire ainsi libellée. Les membres et le secrétaire de la commission ont droit à une indemnité et au remboursement de leurs frais fixés par l'ordonnance cantonale sur les indemnités aux membres des commissions. Il va sans dire que cette formule pourrait être reprise dans tous les textes légaux ou figures des commissions.
Il est clair que ce travail-là incombe d'une façon large à la commission autorité administration 3. Y a-t-il des oppositions ? Accepté.
712.1, ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930, ordonnance du 17 juillet 1931. La commission vous propose son acceptation sans modification matérielle.
Discussion. Opposition. Acceptée. Travaux publics. Rapporteur de la commission, monsieur Jean-Pierre Beuret.
Ordonnance concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'État du 7 novembre 1967. À propos de cette ordonnance, nous avons enregistré une requête de la Fédération cantonale jurassienne de la Société suisse des entrepreneurs. Cette dernière nous a proposé un projet inspiré de l'actuel règlement vaudois en la matière. Ses innovations les plus importantes par rapport à la situation actuelle seraient les suivantes. Premièrement, obligation à l'État d'attribuer ses travaux à des entreprises domiciliées dans le canton et inscrites au registre professionnel jurassien. Deuxièmement, obligation à l'État d'accorder une priorité aux entreprises utilisant des matériaux de provenance indigène. Ces propositions appelant un débat sur le fond, la Commission n'est pas entrée en matière à leur sujet, conformément aux explications données il y a quelques minutes. Les entrepreneurs jurassiens devront donc patienter jusqu'à la formation du gouvernement pour renouveler leurs propositions. Soulignons cependant que sans être contraignante, l'ordonnance que nous vous proposons de reconduire permet aussi de satisfaire les exigences de la Fédération des entrepreneurs. Tout dépendra dans ce domaine de la politique de l'État en matière de travaux publics.
Discussion acceptée.
731-23, arrêté du Parlement concernant la fixation du début des travaux de construction cantonale et de l'échéance des subventions de l'État, arrêté du 11 novembre 1964. La commission vous propose son acceptation sans modification matérielle.
Discussion acceptée. Nous arrivons à la loi sur les constructions. Rapporteur de la commission, M. Georges Genette.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, il m'appartient donc de continuer de vous exposer les travaux de la commission législative 3. 732-11, accepté sans modification matérielle, reste en suspens la question du service qui délivrera les permis de bâtir. Doit-on le maintenir pour les villes de plus de 10 000 habitants? Il y a seulement de Léman qui est concerné. Ensuite, le principe des droits qui entre-t-il en ligne de compte?
Discussion. Accepté.
732-123-31. Cette ordonnance qui stipule que les routes appartenant aux réseaux d'approvisionnement destinées aux troupes au transport exceptionnel doivent être maintenues constamment ouvertes conformément aux dispositions. Pour le Jura, il s'agit des routes suivantes: basse-cour, sous-station de basse-cour, port-entrée, sous-station de la Race, basse-cour, sous-station Bouécourt, courant de l'Ain, sous-station courant de l'Ain, la Chaux-de-Fonds, usine électrique de la Gaule.
Discussion. Accepté.
732-123-42. Ce décret traite de la capacité contributive et la quotité d'impôt selon le décret sur la compensation financière directe et indirecte. En suspens, renvoyé à la commission AA1.
Le reste est accepté sans modification matérielle.
Sans modification matérielle, oui.
Opposition. Accepté.
732-123-44. Il est à noter que la nouvelle Banque du Jura devra s'appeler Banque cantonale du Jura et non Banque cantonale jurassienne pour éviter tout équivoque.
Ce problème devant-on être encore revu par la commission des établissements autonomes?
Oui.
Discussion acceptée.
732-181. Cette ordonnance donne compétence au gouvernement cantonal pour les prêts à valorisation des autorités fédérales. Accepté sans modification matérielle.
Discussion. Accepté. Nous passons maintenant au chapitre de l'énergie. Monsieur Hennet.
742-31. Cette ordonnance désigne les conseils communaux comme autorités locales pour les contestations des propriétaires d'arbres dont les branches menacent la sécurité ou le fonctionnement des lignes électriques, et concernant également les indemnités à verser. Sans modification.
Discussion. Accepté.
751.
Nous arrivons aux eaux.
Oui.
751-11.
Cette loi fait ressortir quelles sont les eaux du domaine public avec les droits de propriété et de servitude. Entretien des digues et des eaux du domaine privé non placées sous la surveillance de l'État. L'article 31 dit notamment les eaux qui ne sont pas utilisées pour la navigation ou le flottage appartiennent aux propriétés sur lesquelles elles se trouvent et qu'elles traversent, à moins que le contraire ne résulte de droits acquis. Les étangs, par exemple, sont des cours d'eau privés. Il est dit, sont réputés eaux privées, les eaux de fonds de peu d'importance, ainsi que les sources captées ou non, à l'exception de celles de rivières et ruisseaux. Reste en suspens la question des préfets.
Discussion acceptée.
751.
La circulaire.
11.
BL1-318.
Selon carte des eaux du canton de Berne, ce sont tous les cours d'eau qui se trouvent dans le Jura. Je n'en donne pas lecture.
Accepté.
751-121. Arrêté du gouvernement concernant les corporations d'Édith. Examen du compte annuel du 4-12-56. Cet arrêté concerne les comptes des corporations d'Édith. Ces comptes étaient soumis à la préfecture. En suspens, question des préfets.
La discussion est demandée, Monsieur Gury.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, j'aurais voulu intervenir au numéro précédent, 751-111, mais on y a passé dessus comme chat sur braise. Il s'agit des rivières privées. En première lecture, le jeudi 13 mai 76, j'ai dit, parlant de l'article 15, quatrième alinéa, la loi définira les conditions de la pratique de la chasse et de la pêche afin d'assurer l'équilibre biologique que nous souhaitons tous. Elle réglera du même coup la question des rivières privées. Dans l'esprit de la Commission constitutionnelle 2, que je présidais à l'époque, il était bien clair que le régime des eaux privées placées sous la surveillance de l'État devait cesser. Il est en effet très choquant pour un habitant du Val-Terbie, par exemple, de ne pouvoir pêcher dans la rivière qui coule sous ses fenêtres, alors qu'un citadin millionnaire taquine hardiment des truites qui, comme par hasard, ne veulent pas de ses sollicitations. Sans l'intervention indigène, le poisson mourrait de vieillesse, ce qui, chacun le sait, est mauvais pour l'équilibre biologique. Les rivières privées doivent revenir à l'ensemble de la communauté. Si je prends la parole, c'est précisément pour demander aux futures autorités jurassiennes de ne pas renouveler les baux actuels lorsqu'ils arriveront à échéance. J'ajoute que je ne suis pas pêcheur.
Vos voeux seront transmis au prochain gouvernement, M. Gury. Monsieur Hennet, pour la suite.
Cet arrêté, donc je l'ai dit, concerne les comptes des corporations d'édits. Ces comptes étaient soumis à la préfecture, c'est donc en suspens. 151. Il faut supprimer les lacs à l'article 1, à l'article concernant les constructions et commandes à soumettre à la commission AA2.
Discussion sur l'arrêté et l'ordonnance. Opposition acceptée. Le règlement.
752-111. C'est un règlement de commission purement consultatif. La commission propose de l'abroger.
Opposition acceptée.
752-321, ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau potable. Cette ordonnance traite de l'aménagement des réseaux de distribution d'eau potable et des installations de stations d'épuration. Reste en suspens la question de l'établissement d'assurance immobilière.
C'est de nouveau un problème qui sera étudié par la commission des établissements autonomes. Opposition acceptée.
752-41, loi sur l'utilisation des eaux. Cette loi traite de l'utilisation des eaux publiques et privées soumises au contrôle de l'État, des octrois de concessions hydrauliques notamment. Elle traite également de la protection des sites, pêche, navigation, ainsi que les canalisations et épurations des eaux. L'article 107 et 134 qui concernent les émoluments sont transmis à la commission AA2.
Discussion acceptée.
752-411, ordonnance portant exécution de la loi du 3-12-1950 sur l'utilisation des eaux du 30-11-51. Cette ordonnance donne au gouvernement le contrôle et la surveillance de l'application de la loi sur l'utilisation et ses dispositions d'exécution. Acceptée, sans modification.
Opposition acceptée.
752-421, décret concernant l'octroi de concessions de forces hydrauliques, de pompes hydrothermiques et de droits d'eau d'usage du 14-11-51. Ce décret règle l'utilisation des eaux publiques subordonnées à une concession d'État, sans modification matérielle.
Opposition acceptée.
752-461. Décret sur les redevances et les émoluments dus pour l'utilisation des eaux du 2-9-68. L'article 19 et 31 qui traite des taxes d'eau et des barèmes concernant la force hydraulique sont transmis à la commission AA2. Pas d'autres observations.
Opposition acceptée.
752-511. Arrêté du Conseil exécutif portant interdiction d'utiliser le tritium pour les analyses hydrologiques du 22-9-71. Cet arrêté concerne l'emploi du tritium pour les marquages artificiels des cours d'eau. Il peut être dangereux puisque légèrement radioactif. C'est la raison de cet arrêté pour interdire son emploi dans les analyses hydrologiques.
Opposition acceptée. Nous passons maintenant au transport et communications. Loi sur la circulation routière, Monsieur Hennet.
761-11, loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers du 4-3-73. Cette loi traite de l'application de la législation fédérale et ajuste à l'article 3 la création d'une commission de recours conformément à la législation fédérale. doit être examiné par la commission législative 1.
La discussion est demandée, Monsieur Moritz Charles. Paul, pardon.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les députés, au sujet de 761-11 et de 761-121, il s'agit de traiter la question de la commission de recours. Or, je me permets de vous signaler que lors de notre séance du 15 décembre dernier, nous avons pris une option de principe en ce sens que le juge administratif est compétent pour le contrôle des décisions prises dans le domaine de la circulation routière. Autrement dit, cette question est réglée et ce sera dans le code de justice administrative que nous nous prononcerons définitivement et que votre Assemblée aura l'occasion de se prononcer. Afin de ne pas perdre de temps, je vous signale un autre cas. J'ai levé la main en vain, Monsieur le Président, tout à l'heure. En ce qui concerne 700...
On va vous acheter des pistolets comme ça, vous attirerez moins l'attention.
En ce qui concerne 711, je m'excuse, je demande de nouveau la brève discussion sur ce point. 711 et 711-1, il s'agit de la loi sur l'expropriation et l'ordonnance portant exécution de la loi du 3-10-65 sur l'expropriation. Or, à l'article 44-1 et à l'article 45-1 de la loi sur l'expropriation, on parle de la nomination d'une commission d'estimation comme tribunal compétent en matière d'expropriation. Or, de nouveau, le 15 décembre dernier, dans nos options fondamentales en matière de justice administrative, nous avons admis en principe que la compétence du juge administratif de district était donnée en matière d'expropriation, de telle sorte que je vous propose, avec d'ailleurs l'accord de mon collègue Monsieur Beuret, de laisser ces questions, donc article 44, 45 de la loi sur l'expropriation et l'article 6 de l'ordonnance, en suspens.
D'accord, monsieur Beuret. On ne peut d'ailleurs que les laisser en suspens puisque le jeudi dernier, c'était des décisions de principe au sujet de la justice administrative. Oui. Monsieur Hennet, pour la suite.
761-121, donc le décret concernant la commission des recours en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules du 10-5-72. Cette commission statue sur les recours formés contre la décision de l'Office de la circulation routière et contre les décisions rendues par cet office en procédure d'opposition à l'égard des conducteurs de véhicules. Ce décret est examiné par la législative 1 pour le cas où il maintiendrait la commission des recours prévus ci-dessus. Car ce décret organise la commission en question. Pour le cas où cette commission serait reprise, les articles suivants seraient à examiner. Article 9, l'émolument par la AA2 et l'article 10, indemnité par la AA3.
Donc nous acceptons ce décret sous réserve de décisions ultérieures prises par la commission législative 1. Opposition, accepté.
761-151, ordonnance sur la police des routes et la signalisation routière du 31-12-40. Le préambule est à supprimer, la législation mentionnée n'existe plus. Quant au fond, il est contenu dans sa quasi-totalité dans la loi fédérale sur la circulation routière de 1958. Mais on ne peut le supprimer du fait qu'elle contient encore des dispositions de droit bernois qui sont en vigueur.
Est-ce que contact a été pris avec la législative 1 pour cette ordonnance sur la police des routes ?
Ceci. Non, non. Rien pris. Pas encore.
Donc c'est toujours sous réserve. Hein. Tous ces recours sont, toutes les discussions, toutes les décisions que nous prenons en ce qui concerne les voies de recours sont acceptées sous réserve de décisions ultérieures prises par la législative 1 en ce qui concerne le code de procédure administrative. Monsieur Hennet.
761-171, ordonnant sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique du 8-12-71. Cette ordonnance est applicable à tous les véhicules automobiles sur l'article 7 de la loi fédérale de 1958 sur la circulation routière. Il est cité les exceptions telles que l'armée, la police, les pompiers, etc. Sans changement.
Opposition. Accepté.
761-211-1, règlement de la commission de signalisation routière du 14-7-64. Ce règlement est abrogé. Il désignait les membres de la commission de signalisation routière, leur nombre, les personnes qui la composent, commandant de police, chef de service et autres personnages. Dans le nouveau canton, la direction de police réglera ce cas.
C'est renvoyé quand même pour étude à la commission autorité administration 2. Voilà. Une. Opposition. Acceptée.
761-371, règlement concernant l'exercice de la profession de maître de conduite du 16-7-57. Le préambule est supprimé. En effet, on ne connaît pas le contenu du décret organisant la direction de police. À l'article 5, commission d'examen qui comptait 5 membres et 4 suppléants, nous avons en commission estimé que 3 membres et 2 suppléants étaient suffisants, non petits des maîtres de conduite dans un petit canton. Diminution des frais.
Opposition. La discussion est demandée. Monsieur Pope.
Monsieur le Président, messieurs, le groupe démocrate chrétien vous propose de maintenir, le nombre à 3 membres, mais d'avoir les libellés. Suivant, la commission d'examen se compose de 3 membres au moins et de 2 suppléants, ce qui pourrait permettre au gouvernement, si le besoin s'en fait sentir, de désigner des spécialistes. Et s'il fallait des spécialistes, il nous apparaît que le nombre de 3 est insuffisant, ceci d'autant plus qu'il y a une volonté manifestée de voir dans chaque commission la représentation des différentes régions. C'est pourquoi nous proposons donc d'ajouter le terme 3 membres au moins.
Nous voilà en présence d'une proposition d'amendement qui ne tombe pas sous le coup des principes de travail que nous avons adoptés le 28 avril. La discussion est ouverte sur cette proposition d'amendement. La commission. La commission accepte cette proposition d'amendement.
Au moins deux membres, hein. On n'a pas consulté les autres, mais je pense que ce n'est pas grave au point de. À l'article 6, il est dit également, les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.
Opposition. Accepté.
761-41. Ordonnance sur la circulation des cycles du 28-8-42. À l'article 7, émolument, renvoie à la commission AA2. À l'article 9, les contraventions aux dispositions de cette ordonnance ne tombent pas sous le coup des pénalités de la loi fédérale du 15 mars 1932, mais sous celle du 19 décembre 1958.
Opposition. Accepté.
761-421, décret concernant l'assurance en responsabilité civile des détenteurs de cycles du 14-11-62. À l'article 3, émolument, renvoie à la commission AA2. À l'article 6, le décret du 19 novembre 1935 instituant une assurance de responsabilité civile des cyclistes est abrogé.
Opposition. Accepté.
761-421-1, ordonnance concernant l'assurance en responsabilité civile des détenteurs de cycles du 9-1-74. Cette ordonnance traite des plaques et permis de cycles sans modification.
Opposition. Accepté.
761-611, décret sur l'imposition des véhicules routiers du 10-5-72. Il s'agit ici des taxes de véhicules routiers et de l'exonération de certains véhicules. L'article 4 qui traite des taxes est renvoyé à la commission AA2. On a dans ces véhicules privés ceux appartenant aux paroisses. Il n'y a rien à changer, les paroissiétés demeurent des collectivités de droit public.
Le reste étant accepté sans modification
matérielle. Sans modification.
Opposition. Accepté.
760.
Nous arrivons, attendez, monsieur Hennet, nous arrivons sur la loi sur les entreprises de transport concessionnaires. Et à ce sujet, la commission des établissements autonomes demande que cette loi soit retirée de l'ordre du jour, étant donné que la commission des établissements autonomes n'est pas suffisamment avancée dans sa réflexion. Elle demande au plénum d'approuver cette proposition. Je demanderai peut-être au président de la commission de s'exprimer. Vous êtes d'accord avec cette proposition? Monsieur Jean-Pierre Beret, d'accord, donc nous retirons de l'ordre du jour la loi sur les entreprises de transport concessionnaires. Nous passons immédiatement à l'ordonnance concernant les subventions cantonales en faveur des entreprises de transport de régions urbaines qui est proposée comme abrogée.
Oui, abrogée, car elle ne concerne que les villes de Bienne et Berne qui sont les seules à avoir des transports en ville et dans les communes de banlieue.
Discussion acceptée.
767.4, ordonnance concernant l'exécution de l'article 62 de la loi fédérale du 28-9-23 sur le registre des bateaux du 26-12-24. À l'article 1, il est question du juge de police. Il faut mettre président de tribunal. L'article 2, les dispositions applicables aux contraventions de police, supprimer de police, puisque c'est maintenant président de tribunal.
Opposition. Accepté.
768.1, ordonnance relative à la loi fédérale du 21-12-48 sur la navigation aérienne du 26-1-51. Le gouvernement exerce les droits assurés au canton, notamment les concessions et l'exploitation d'aérodromes, transports professionnels et autres. À l'article 3, le gouvernement désigne le représentant jurassien auprès de la commission d'enquête. Rien d'autre à signaler.
Opposition. Accepté. Nous en avons ainsi terminé avec la matière législative qui était au programme de cette session. Nous nous sommes déjà rendus compte la semaine dernière, j'en ai discuté avec les présidents de groupe, nous en discuterons encore avec les présidents de commission, il s'agit de trouver une méthode de travail plus rationnelle pour le passage en plénum de cette matière législative. Nous essaierons d'améliorer notre travail pour le prochain plénum. Nous passons maintenant, Madame, Messieurs, au point 3 de l'ordre du jour. Organisation de l'État, logement provisoire de l'administration, décision de principe. Je donne la parole au rapporteur de la commission, Monsieur Dietlin.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, le 1er janvier 1978, le Jura deviendra un État. Son administration devra être prête à fonctionner normalement, sans heurts. Il s'agit donc, après l'avoir organisé, de la loger convenablement. Une partie de l'administration peut être logée d'une façon décentralisée sans que cela soit préjudiciable à son efficacité. Par contre, l'administration centrale doit être, dans la mesure du possible, mise sous le même toit. Les raisons en sont évidentes et ne nécessitent pas de longs discours ni de longs développements. Que l'on pense simplement à l'obligation qu'il y a de coordonner très très étroitement l'activité des différents organes de l'administration centrale et au fait qu'il faut absolument simplifier la circulation et la transmission des affaires de l'État. Cette manière de faire permettra à l'appareil de l'État de se roder dans les meilleurs délais. Les responsables pourront ainsi étudier le programme des besoins en logement de l'administration centrale avec un certain recul et adapter les structures informatiques à une administration fonctionnant bien dès le début. L'administration centrale doit obligatoirement se trouver à Delémont, puisque le gouvernement y siégera. Il n'y a, en l'état actuel des choses, que deux solutions. La première est la reprise du château de Delémont par l'État et sa transformation en bâtiment administratif. Cet édifice, qui abrite actuellement les classes de l'école primaire de Delémont, a été bâti par l'architecte Racine de Renan sous le règne du prince-évêque Jean-Conrad de Reynard. Psychologiquement, il est clair que cette solution est assez séduisante. Elle comporte une référence au passé qui serait bienvenue. La deuxième solution réside dans la construction d'un bâtiment administratif neuf. Elle serait sans aucun doute plus rationnelle et séduirait tous ceux pour qui l'avenir compte plus que le passé. La commission Autorité et Administration 2 n'a pas tranché entre ces deux solutions et ne vous fait pas actuellement de proposition à ce sujet. En effet, l'administration centrale n'est pas encore suffisamment connue pour qu'un programme des besoins sérieux puisse être mis sur pied, permettant un choix en toute connaissance de cause. La commission a cependant fait faire, par l'Association jurassienne des architectes, une étude comparative sur le sujet dont nous parlons. Cette étude a, hélas, été portée à la connaissance du public, signalant des chiffres qui n'étaient pas exacts. De plus, comme il ne peut s'agir que d'approximations, ces chiffres ne doivent pas être pris intrinsèquement et n'ont qu'une valeur comparative. Cette étude n'avait d'ailleurs d'autre but que de démontrer que tant l'acquisition du château de Delémont que la construction d'un bâtiment administratif neuf étaient l'un et l'autre envisageables. Quoi qu'il en soit, le temps dont nous disposons jusqu'à la mise en place de l'État est trop court pour réaliser l'une ou l'autre de ces deux solutions. Il s'agit donc de trouver une solution provisoire, pratique et, si possible, peu coûteuse. Le problème a été étudié par M. Dominique Nussbaum, architecte urbaniste à Delémont, qui fonctionnait comme expert de la commission. Les solutions provisoires ne sont pas illimitées, elles sont en fait au nombre de quatre et peuvent être résumées de la façon suivante. Première solution, elle consiste en l'achat ou la location de baraquements de type dit militaire. Cette solution est à exclure d'emblée. Mis à part le fait que l'administration militaire fédérale ne met de telles baraques à disposition de civils qu'en cas de catastrophe, et là je vous cite textuellement un passage d'une lettre de l'administration fédérale, il faut bien reconnaître que l'effet psychologique produit serait mauvais. Cette solution a contre elle, en plus, le fait d'être chère. Un baraquement de type militaire moderne, disons bien fait, coûte actuellement à l'achat 800 francs par mètre carré. Et d'après les téléphones et les renseignements que j'ai pris, il ne semblerait pas possible de pouvoir en louer suffisamment pour y installer les services de l'administration centrale, car la location est, dans ce genre de choses, l'exception. Deuxième solution, il s'agirait de l'utilisation des bâtiments d'État en ville de Delémont et de la location de locaux privés disponibles. L'éparpillement résultant de cette solution va à l'encontre de ce que nous devons rechercher. Troisième solution, on pourrait envisager l'achat ou la location d'un immeuble bien situé en ville et la transformation des locaux qu'il abrite en bureaux. À première vue, cette solution peut paraître assez séduisante car elle permettrait à la fin de l'opération l'utilisation de ces locaux en bureaux par des privés, donc diminution des frais. Les inconvénients de cette solution sont d'une part un prix de transformation élevé du fait notamment des installations téléphoniques nécessaires et l'obligation de donner des dites à tous les locataires, ce que la constituante serait mal placée pour faire. Il faut reconnaître que ces inconvénients tomberaient si le bâtiment des postes qui a été incendié à la rue du 23 juin pouvait faire l'affaire. Malheureusement, son volume n'est pas suffisant et il se poserait là un problème insoluble en ce qui concerne les places de parc, ce d'autant plus que l'État est tenu d'en faire, ne pouvant se soustraire à ses propres lois. Quatrième solution, cette solution que la Commission vous propose consiste à réserver un immeuble à construire ou en construction, qui pourrait être soit loué, soit acheté. Après utilisation, il pourrait être sans autre loué comme bureau ou transformé en immeuble locatif. Cette solution nous semble être la plus rationnelle, car elle permet de prévoir au début de la construction toutes les installations techniques nécessaires, réduisant ainsi les coûts au minimum. Cette solution est réalisable, car il y a, d'après le service des travaux publics de la ville de Delémont, quelques projets en cours qui pourraient faire l'affaire. Je tiens à signaler à cette Assemblée qu'à ce jour, aucune négociation n'a été engagée avec quelque groupe immobilier que ce soit. En effet, la Commission et le Bureau ont voulu que la Constituante se prononce hors de toute pression sur le principe même d'une solution provisoire. Ceci acquis, et pour autant que vous partagiez notre avis, il faudra étudier les projets existants et trancher. Nous vous proposons d'en laisser la compétence au bureau qui le fera sur la base des propositions de la Commission. La Commission suivra naturellement le dossier relatif à la solution définitive château de Delémont ou bâtiment administratif neuf ou éventuellement autre solution qui pourrait surgir entre-temps. Et la Commission se réserve d'ores et déjà la possibilité de proposer au Bureau de faire trancher la question de fond par l'Assemblée constituante si des éléments nouveaux suffisants devaient survenir. Je vous remercie.
La discussion d'entrée en matière est ouverte. Ont déjà demandé la parole Messieurs Vauclair et Gury. Monsieur Vauclair a la parole.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, le groupe démocrate chrétien, après une étude attentive des propositions de la Commission Autorité Administration 2, tient à faire les remarques suivantes. Tout d'abord, il partage l'avis de la Commission pour ce qui est de la solution définitive. Parlement, gouvernement et administration centrale s'installeront soit au château, soit dans un bâtiment neuf. D'autre part, la mise sur pied d'une solution provisoire nous apparaît comme incontestable. La décision de principe qui nous est soumise, à la lumière des explications que vient de fournir le président de la Commission, nous paraît comme étant probablement la seule praticable. Toutefois, nous désirons savoir si, à côté des quatre solutions possibles qui ont été esquissées, d'autres solutions sont envisageables, comme par exemple des pavillons plutôt que des baraquements militaires, ce qui peut-être suppléerait à ce désavantage psychologique qui nous a été cité.
Monsieur Gury.
Le PCC est en principe favorable à la proposition de la commission AA2, mais nous demandons expressément que la réfection du château de Delémont soit une solution étudiée en priorité et que tous les efforts soient entrepris pour qu'elle devienne réalité. Il y a lieu notamment de reconsidérer l'étude sommaire faite par l'Association jurassienne des architectes en ce qui concerne le coût de cette transformation. Une étude plus approfondie devrait déboucher sur des solutions moins coûteuses. Il serait regrettable de priver l'administration centrale du cadre historique que représente le château de Delémont. Nous souhaitons que les dispositions qui seront prises pour loger l'administration tiennent compte de tous les projets que la place de Delémont peut offrir. Il importe également que le bureau se détermine rapidement pour permettre au propriétaire ou à l'entreprise choisie de prendre toutes les dispositions utiles afin de respecter un délai qui est relativement court.
Discussion toujours ouverte. La discussion n'est plus demandée sur l'entrée en matière. Est-ce que le rapporteur de la commission désire s'exprimer après l'intervention de messieurs Vauclair et Gury? Monsieur Dietlin.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai pris connaissance, j'écoute avec intérêt mes deux collègues, et il est clair que si je peux donner peut-être encore un renseignement complémentaire au sujet d'une question que m'a posée Monsieur Vauclair, qui éclairera peut-être, je pense, cette Assemblée, il est clair qu'il y a plusieurs types de baraques mandis militaires, à partir de la baraque en planche que nous connaissons tous pour avoir mobilisé une fois à Romont, qui est, elle, de l'ordre de 350 à 450 francs, il y a le pavillon provisoire de bonne facture, avec double vitrage et autres, qui, lui, a une meilleure façon, c'est évident, mais est, lui, alors, d'un prix de 800 francs par mètre carré. Ce qui fait que on ne remplace pas par des pavillons, vu le prix, l'intérêt qu'il peut y avoir à mettre l'administration centrale dans un bâtiment qui a été construit d'une certaine manière en fonction de ça, notamment en ce qui concerne les possibilités techniques de relier les différents locaux entre eux. Ceci tant pour le service du téléphone que, il faut, je pense, le prévoir aussi, en tout cas provisoirement, le service de l'informatique qui devra entrer en vigueur, disons, pratiquement en même temps ou d'une façon suivie. La proposition, en ce qui concerne la proposition faite par le PCSI de modifier, de supprimer à la première, au premier paragraphe à titre provisoire et de mettre provisoirement dans la décision de principe, il est clair que je suis d'accord, je pense la commission aussi, parce que effectivement, ça éclaircit le texte et ça éclaircit la situation.
Nous allons passer aux voix. Les membres de notre Assemblée qui sont en faveur de l'entrée en matière le manifeste en levant la main. Avis contraire. Accepté. Nous allons passer à la discussion de détail et il y a pour le moment deux propositions d'amendements, l'une émanant du PCSI, l'autre du groupe socialiste. On ne va pas passer alinéa par alinéa, mais prendre tout d'abord le haut jusqu'à, c'est la raison pour laquelle la commission a à deux à l'unanimité et la suite, où là nous avons des propositions d'amendement émanant du groupe socialiste et en premier lieu la première partie où il y a une petite proposition d'amendement du groupe chrétien social indépendant. Pour cette première partie, Monsieur Gury a demandé la parole.
Je n'ai pas parlé de ces propositions dans le débat d'entrée en matière. Je pense que Maître Dietlin m'a mal compris. Mais le PCSI, pour la clarté du texte, vous propose de petites modifications. Vous les avez sous les yeux. À la deuxième phrase, le texte n'est pas heureux. Notre Constitution postule la décentralisation. Or, le texte de la Commission dit textuellement « Si une partie de l'administration peut être logée à titre provisoire d'une façon décentralisée, il importe que l'administration centrale soit dans la mesure du possible groupée. Vous admettrez avec moi que la décentralisation ne peut pas être provisoire. Elle résultera des études que nos commissions nous soumettront prochainement. Pour supprimer toute ambiguïté, je vous propose au nom du PCSI la suppression des termes à titre provisoire.
Discussion. Président de la commission.
D'accord.
Le président de la commission est d'accord. Opposition. Accepté. Nous arrivons maintenant au paragraphe au sujet duquel le groupe socialiste a proposé plusieurs amendements. Et en vertu de l'article 39 alinéa 2 du règlement qui dit que lorsqu'une question est susceptible d'être fractionnée, on procède à des votes fractionnés, je pense qu'il y a là deux, dans la proposition du groupe socialiste, il y a deux éléments qui sont différents. Tout d'abord, provisoirement et locaux appropriés, c'est une chose qui peut être acceptée en même temps. Et ensuite, il y a une deuxième notion, un deuxième postulat, à savoir que le bureau serait, selon la proposition du groupe socialiste, chargé de proposer, alors que selon la commission, il serait chargé de prendre des dispositions. Est-ce que le président du groupe socialiste est d'accord avec ma proposition de scinder? Bon. Monsieur Mertena, pour présenter les amendements de votre groupe.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au nom du groupe socialiste, j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation une modification au texte proposé par la commission Autorité Administration 2. Il s'agit du quatrième paragraphe, je vous en donne lecture. C'est la raison pour laquelle la commission AA2, à l'unanimité, propose à l'Assemblée constituante jurassienne de prendre la décision de principe, jusqu'ici pas de modification, de loger provisoirement l'administration centrale dans des locaux appropriés. Le bureau étant chargé de proposer à l'Assemblée constituante toute disposition propre à assurer la réalisation pratique de cette décision. Bon, je vais développer le premier amendement. Il est clair que sur le fond, nous nous rangeons bien évidemment aux conclusions de la commission présidée par Maître Dietlin. L'alternative réfection du château de Delémont, construction d'un bâtiment neuf, ne saurait être tranchée dès à présent, faute des éléments suffisants pour un choix aussi fondamental. Donc notre groupe, vous l'avez vu tout à l'heure, a approuvé le principe d'une solution provisoire et a voté l'entrée en matière. Mais, je le répète, deux réticences nous empêchent de suivre pleinement la commission. Premièrement, en approuvant le principe de loger notre administration centrale dans un immeuble locatif, notre choix est d'emblée restrictif. Il écarte résolument toute autre solution, que ce soit dans le cadre des locaux existants ou à créer. La formulation suggérée par le groupe socialiste est plus souple. Elle permet les adaptations et les changements d'orientation qui se présentent souvent lors de pareilles études. Et tout à l'heure, Maître Dietlin nous a précisé qu'il existe quatre solutions. Évidemment que quand on fait une analyse de son intervention, on se rend compte que ce choix est encore limité. Je dois dire que nous ne nous opposons pas au fait que l'administration centrale soit logée dans un immeuble locatif, mais le terme même est restrictif et le terme que nous proposons, des locaux appropriés, permet cette solution-là, mais elle n'en écarte pas d'autres. Et j'aurais une question encore à poser au président de la commission. Il ne nous a pas renseigné sur la procédure suivie par la commission. De quelle manière, au fond, le choix sera-t-il fait? De quelle manière les contacts seront-ils pris? Y aura-t-il un appel d'offres public? Notre groupe le souhaite. Il s'agit ici d'appliquer les principes qui sont usités par les collectivités publiques et nous aimerions également avoir des renseignements de ce côté-là. Je m'arrête ici. Je voudrais que, comme l'a dit le président tout à l'heure, nous discutions point par point. Il y a deux amendements dans ce paragraphe.
Voilà. Sur cette première partie, il y a adjonction de l'adverbe « provisoirement » et le remplacement d'un immeuble locatif par des locaux appropriés. Discussion ouverte. Le président de la commission, Monsieur Dietlin.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je crois que en ce qui concerne la première partie de l'intervention, elle ne pose pas grand problème. Je vais surtout essayer de m'attacher à la deuxième partie de l'intervention.
Est-ce que vous acceptez, Monsieur le Président, est-ce que vous acceptez la proposition du groupe socialiste de modifier, d'avoir l'adjonction de l'adverbe provisoirement et la transformation de immeuble locatif à locaux appropriés?
Oui.
Vous acceptez?
Oui, j'accepte celle-là. Parce que
maintenant, vous répondez aux questions.
Oui. Là, disons, alors, je répondrai un peu plus longuement. Il est clair qu'on peut accepter cette proposition parce qu'elle laisse une porte ouverte, tout en étant bien conscient que la proposition que la Commission fait est, je crois, la seule qui est possible. Ceci pour des questions de temps, et je vais vous dire ceci pour vous donner les raisons. Allons-y par ordre. Tout d'abord, en ce qui concerne les modalités, nous vous proposons de donner la compétence au bureau, qui le fera d'entente avec la commission, de mener les négociations. Ceci pour, en tout cas, une raison évidente, c'est qu'il faut empêcher que des discussions et des négociations privées ou par petits groupes s'instaurent dans des affaires de ce genre. Il y a peu de possibilités de l'aimant actuellement. Il y en a 2, 3, peut-être 4. Et ceci pour des questions de temps. Vous vous rendez bien compte que pour construire un bâtiment de ce genre, il faut un minimum d'une année. Il faut quand même que les plans soient déjà prévus et que les possibilités offertes existent déjà actuellement, ne serait-ce qu'en fonction de la longueur des permis de bâtir que chaque responsable communal connaît. Pour la bonne forme, je pense évident que le bureau fera un appel d'offres public, et il ne faut d'ailleurs se faire aucune illusion en ce qui concerne le résultat de cet appel d'offres. Il y aura les cas que la commission des travaux publics de Delémont nous a cités et nous a signalés. Deuxième point, c'est le fait de vouloir en fait que le plénum et le bureau se comportent comme dans une procédure parlementaire normale, c'est-à-dire comme parlement et comme gouvernement. Il y a, par rapport à un parlement normal, une différence essentielle, c'est que en matière, telle que dans les matières dont nous traitons maintenant, ni le plénum, ni le bureau n'ont de personnalité juridique valable. Et ni le plénum, ni le bureau ne pourraient passer contrat pour pour la location d'un locatif ou pour l'achat d'un locatif. Il faudra donc trouver un artifice, problème qui est actuellement, je crois, en discussion et à l'étude au bureau. L'avantage donc de procéder de cette façon-là, c'est un gain de temps absolument nécessaire, car il est inconcevable que, lors de l'entrée en vigueur de l'État, l'administration ne soit pas logée ou ne puisse pas l'être. Et deuxième chose, une certaine discrétion et une certaine unité de vue dans les négociations qui peuvent être introduites, qui doivent être introduites, permettant ainsi d'éliminer toute spéculation. Voilà, je crois avoir répondu aux arguments soulevés par M. Mertena, et pour cette raison-là, la commission que je préside maintient sa proposition de donner la compétence de liquider l'affaire au bureau.
Voilà, discussion toujours ouverte. Sur la première partie, nous allons donc passer aux voix. Je crois que même ce n'est pas nécessaire puisque la commission accepte les amendements du Parti Socialiste provisoirement et locaux appropriés. C'est bien juste, Monsieur Dietlin, c'est bien juste. Vous acceptez cela? Bon, nous allons passer maintenant alors sur la deuxième partie de l'amendement où là la commission maintient sa proposition. Donc, proposition de la commission, le bureau étant chargé de prendre toute disposition propre à assurer la réalisation pratique de cette décision. Proposition du groupe socialiste, le bureau étant chargé, et ici la modification, de proposer à l'Assemblée constituante toute disposition propre à assurer la réalisation pratique de cette décision. Les membres de notre Assemblée... Ah, pardon, Monsieur Mertela.
Oui, avant de passer au vote, je crois qu'il est nécessaire de donner quelques explications quant à ce... Deuxième amendement, je reconnais, mes collègues également, que la formulation n'est peut-être pas des plus heureuses et qu'elle pourrait encore être précisée. Dans toute réalisation d'importance qui a pour corollaire des engagements financiers, les collectivités publiques prennent habituellement leurs décisions en deux temps. Il y a tout d'abord une décision de principe, et il y a ensuite une décision définitive sur la base d'un projet précis avec plan et devis. La réalisation pratique étant bien sûr confiée, avec les adjudications de travaux qu'elle implique, à l'exécutif. Si je prends le cas d'une commune qui veut construire une école, ou une halle de gymnastique, ou n'importe quel bâtiment communal, eh bien, il y a tout d'abord une décision de principe qui est prise en assemblée communale. On désigne ensuite une commission d'études qui présente un projet avec plan et devis. Ensuite, ce projet est soumis en assemblée et la réalisation pratique, évidemment, est confiée à l'exécutif qui peut lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de bâtisse. C'est généralement la commission d'études qui est ensuite transformée en commission de bâtisse. Bon, voilà sur le plan de la procédure. Dans le cas qui nous occupe, si l'Assemblée constituante adopte sans modification le texte proposé par la Commission, elle va en quelque sorte signer un chèque en blanc. Et afin que notre Assemblée puisse se déterminer en toute connaissance de cause, sur la base donc d'un projet précis, même s'il s'agit finalement d'un projet à caractère provisoire, c'est un provisoire qui va quand même durer quelques années, il s'agit tout de même pour nous de savoir quelle est la portée des engagements que nous prenons, et c'est pour cela que nous suggérons de compléter l'alinéa sous la forme qui vous a été présentée tout à l'heure. Et de cette manière, premièrement, nous nous déterminons aujourd'hui sur le principe et nous chargeons du même coup le bureau et la commission autorité administration 2 de mener à chef les études nécessaires. Deuxièmement, une fois les études faites, bon, les locaux inventoriés ou l'immeuble locatif choisi ou proposé, les travaux d'aménagement nécessaires devisés, nous nous prononçons sur la base d'un projet concret, tout en étant parfaitement renseignés sur ses implications financières. Mais il est bien entendu que l'exécution du projet, la réalisation, avec les adjudications de travaux qui certainement seront nécessaires, reste bien évidemment de la compétence du bureau. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le sens de l'amendement que nous vous avons proposé et que nous vous demandons d'accepter.
Monsieur Christ.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, je crois que je comprends très bien ce que le Parti Socialiste voudrait et je crois que ce serait raisonnable si nous avions le temps. Mais il ne faut pas nous faire d'illusions. Si véritablement la nouvelle administration doit entrer le 1er janvier 1979, il reste une année. Il n'y a donc que une construction en cours et déjà commencée qui peut entrer en ligne de compte. C'est parfaitement impossible de trouver 100 locaux sans qu'on ait déjà pratiquement commencé les travaux. Et alors il y a des décisions immédiates qui doivent être prises, des décisions importantes, notamment sur les liaisons entre les locaux pour savoir quels murs on ne devra pas construire, pour les installations téléphoniques, l'arrivée des câbles électriques pour des grandes machines électriques. Il y a aussi toutes les questions, on va décommander les salles de bain, les toilettes, etc. Il y a un tas de décisions qui doivent être prises immédiatement. De sorte que je ne vois pas comment on pourrait venir avec un projet profondément étudié devant l'Assemblée constituante. D'autre part, il faut bien se dire aussi que des artisans ou un groupe qui est en train de construire ne va pas bloquer maintenant pendant 2 mois ou 3 mois sa construction dans l'espoir éventuel de recevoir le mandat de loger provisoirement pendant 5 ans peut-être l'Assemblée constituante. Alors, je suis persuadé que nous devons ici, bien que je comprenne parfaitement votre réticence, nous devons faire confiance au bureau. Et je vous propose de faire confiance au bureau.
Discussion toujours ouverte. La discussion n'est plus demandée. Est-ce que le président de la commission veut-il encore s'exprimer ? Non. Nous allons donc passer aux voix. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition de la commission le manifestent en levant la main. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition du groupe socialiste le manifestent en levant la main. Par 36 voix contre 8, vous avez accepté la proposition de la Commission. Nous en avons ainsi terminé, Madame, Messieurs les députés, Madame l'Observatrice, à la fin de l'ordre du jour. J'ai fait établir une récapitulation des travaux que nous avons effectués depuis le 20 mars 1977, à savoir depuis le jour où le peuple nous a confié le mandat que nous sommes en train d'exécuter. Les différentes commissions ont tenu à ce jour 253 séances. Les différents comités de coordination des législatives, des autorités d'administration, des commissions économiques et financières, 8 séances. Les conférences des présidents, 13 séances. Les groupes ont tenu ensemble, bien sûr séparément, mais le total, 73 séances. Et le bureau s'est réuni à 29 reprises. Nous venons donc, Madame, Messieurs, d'achever une année très laborieuse. Et elle a requis de nous tous un travail intense. Ce travail d'ailleurs suppose de vous et de vos familles des sacrifices. Je tiens à vous remercier de votre collaboration et à remercier aussi les membres du secrétariat qui se dévouent sans compter. Je crois que nous devons être conscients d'une chose, et cela devrait être suffisant, nous devons être conscients que de notre travail dépendront largement les relations sociales qui animeront la vie quotidienne des Jurassiens dès 1979. Cela me paraît essentiel. Je vous présente encore avant de mettre cette séance, à vous tous ainsi qu'à vos familles, mes vœux les meilleurs pour 1978. Je vous remercie et je lève la séance.